deuxième temps de notre semaine consacrée à la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a 70 ans, au début de 1942, se fédérait la résistance intérieure polonaise, mais aussi parce que, parallèlement, s'intensifiait la déportation des Juifs d'Europe dans les camps d'extermination nazis de Pologne. Mais aussi parce que romans et pièces de théâtre évoquent ce pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Hier, par exemple, nous avons reçu l'historien Yvan Jablonka, qui, dans l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, n'est pas un roman, mais a mené l'enquête pour ressortir des archives les traces écrites de l'existence de ses grands-parents exterminés en 1943. Demain, nous nous intéresserons à l'histoire de la résistance polonaise avec Jean-Yves Potel. Jeudi, nous nous demanderons ce qu'est devenu Auschwitz au temps du tourisme de masse. Et aujourd'hui, eh bien, pour notre documentaire du mardi, Anaïs Quin et Charlotte Roux ont suivi depuis ses répétitions l'année dernière, la préparation à Orléans, puis la réalisation à Avignon du spectacle Yann Karski d'Arthur Nosiciel à partir du texte de Yannick Hennel. Un spectacle qui se pose une question et une seule. Le théâtre peut-il être le relais d'un témoin, le relais des témoins de la Shoah? C'est la question que s'est posée Arthur Nosiciel dans ce documentaire, également dans ce spectacle, jusqu'à 10h. Donc, vous pouvez écouter ce documentaire dans la Fabrique de l'Histoire avec les témoignages d'Arthur Nosiciel, de Laurent Poitrenaud et l'analyse de l'historienne Annette Becker.
En 1981, 4 ans avant la sortie du film Shoah, Yann Karski participe à la conférence des libérateurs du Conseil de United States Holocaust Memorial de Washington. Il déclare: je suis devenu un juif, comme la famille de ma femme, qui est assise ici dans le public. Tous ont péri dans les ghettos, dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Donc, tous les juifs assassinés sont devenus ma famille. Mais je suis un juif chrétien. Je suis un catholique pratiquant, bien que je ne sois pas hérétique. Ma foi me dit que l'humanité a commis un second péché originel, par ordre ou par omission, par ignorance imposée, par insensibilité, par intérêt, par rationalisation froide. Ce péché hantera l'humanité jusqu'à la fin des temps. Il me hante. Et je veux que cela soit ainsi.
Comment parlerons-nous de la Shoah? Yann Karski, mon nom est une fiction.
Florent, on y va.
En 2009, un livre consacré à Yann Karski, courrier de la résistance polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, fait débat. Le réalisateur du film Shoah, Claude Lanzmann, et certains historiens s'indigne des libertés prises par son auteur Yannick Hennel pour imaginer la vie du messager chargé d'alerter les alliés de l'extermination des Juifs en Pologne. Le metteur en scène Arthur Nosiciel adapte ce texte pour interroger le devenir de la conscience du génocide. La perspective d'un retour au silence paraît impossible pour les générations qui ont côtoyé les témoins des camps de concentration et des ghettos. De New York à Varsovie, 3 tableaux suivent le dispositif originel du livre vers la fiction. À l'heure où les témoins directs disparaissent les uns après les autres, comment transmettre Auschwitz sans ceux qui l'ont vécu? Quel rôle peut jouer le théâtre dans cette transmission?
Yeah. Now I go back 35 years. Now, I don't go back, you know.
C'est dans Shoah, de Claude Lanzmann. Vers la fin du film, un homme essaye de parler, mais n'y arrive pas. Il a la soixantaine, s'exprime en anglais, il est grand, maigre, et porte un élégant costume gris-bleu. Le premier mot qu'il prononce est « now », maintenant. Il dit « je retourne 35 ans en arrière », et puis tout de suite, il panique, reprend son souffle, ses mains s'agitent. « Non, je ne retourne pas, non, non ». Il sanglote, se cache le visage, puis brusquement se lève et sort du champ. La place reste vide. On ne voit que des rayonnages de livres, un divan, des plantes. L'homme a disparu. Tandis qu'il revient à sa place, son nom apparaît à l'écran. Jan Karski, USA. Et puis au moment où il s'assied, ancien courrier du gouvernement polonais en exil.
Normalement, on commence par le 3 aujourd'hui.
Tendance.
Tu vas voir ce qui marche. Il faudrait faire, Pascal, il faudrait se mettre sur les mots, là. Il faudrait qu'on découpe les
bâtiments. Arthur Noziciel, metteur en scène.
En rigolant, des fois, je dis Jean-Claude Lanzmann. Mais c'est pas vrai. S'il écoute, je fais pas du tout Claude Lanzmann.
Ça, c'est vraiment la fin. Et là, je suis tout le temps en mouvement.
Je dirais que la première situation, c'est finalement moi, avec mes pauvres moyens et un peu mort de trouille, avec juste ce texte de la première partie qui est comment Enel rend compte du témoignage de Jan Karski dans le film de Claude Lanzmann. Et voilà, et y a, avec moi, on est à la fois au théâtre et puis en même temps, il y a quelques éléments qui nous rappellent qu'on est aussi chez quelqu'un, qu'on est peut-être chez Jan Karski, qu'on est peut-être au moment de ce témoignage, qu'on est peut-être à la fin des années 70. Dans le salon d'Jan Karski, il y a une caméra, y a, voilà, on est...
Quand Lanzmann enregistre son
témoignage. Exactement. On est à ce moment-là. Pour cette première partie, d'être dans un entre-deux de quelque chose qui est de l'ordre à la fois du préambule et du théâtre, mais qui renvoie aussi au cinéma, parce que Shoah est un film de cinéma, c'est un film de cinéaste, et c'est du grand cinéma. Et donc de rappeler aussi quelque chose par rapport à ça. Donc... La première partie, je me suis dit, il faut que, voilà, que ce soit moi qui raconte comment Enel raconte comment Lanzmann a regardé Jan Karski et m'inscrire dans cette chaîne-là, finalement, dans cette transmission-là, et de faire le lien entre la scène et la salle, mais en rappelant le film de cinéma qui était aussi Shoah.
Mais après, je me suis dit, ça va être trop... Ça va être trop parce que, en fait, tu verras, mais il y a quand même en plein milieu, t'as vu l'image, c'est la statue de la liberté en plein milieu. Je pense qu'il n'y a que ça qu'Hollywood en soit. Il y a un peu pareil, New York, New York, New York, et tu sors juste le truc Hollywood.
Annette Becker, historienne.
Trois parties avec trois fois le personnage de Karski qui apparaît de façon différente. Dans le premier acte, il apparaît comme s'il était devant la caméra de Lanzmann. Il en sort, évidemment. Et c'est le Karski tel que Lanzmann l'a rendu au monde, puisque Karski, personnage très important pendant la Seconde Guerre mondiale, avait été complètement oublié, et que Elie Wiesel et Lanzmann l'ont ressuscité au même moment. Elie Wiesel l'a ressuscité, en fait, pour l'emmener en Israël, où il est devenu injuste et où il est devenu un très grand personnage, très important pour les Israéliens qui au moment où ils l'ont redécouvert, au milieu des années 70, commençait aussi à, de plus en plus à s'appuyer sur l'histoire de la Shoah dans leur propre histoire nationale, ce qu'ils avaient beaucoup moins jusque-là. Et en même temps, Lanzmann le découvre. Je n'ai pas encore trouvé si c'était Lanzmann le premier ou Elie Wiesel le premier. C'est quelque chose qu'il faudra que je tranche dans les archives. Et il devient un personnage important dans Shoah. Tous les spécialistes de Shoah connaissaient donc bien Karski. Mais il n'y a pas eu énormément de travaux très précis sur lui jusqu'au moment où la Pologne, redevenant la Pologne démocratique, un certain nombre d'historiens polonais se sont intéressés aux héros de la Pologne, et donc il redevenait un héros de la Pologne.
Arthur, tu pourrais demander plus de lumière devant pour la bourrelette, parce que sinon tu vois rien là.
La lumière, je peux pas les emmerder, ils ont une demi-heure de retard. Ils sont en train de faire les réglages.
Moi, j'ai lu le roman d'Enel, c'est-à-dire que je l'ai lu au cœur d'une conjonction à la fois géographique, artistique et intime. C'est-à-dire que géographique parce que j'étais à New York et que New York est assez présent dans le livre d'Enel, que les errances de Jan Karski dans New York sont... Peut-être que je les ai lues avec plus de... Peut-être que ça m'a été plus présent parce que j'y étais, effectivement. Et puis, de manière beaucoup plus intime, c'était quelques jours après l'enterrement de mon oncle paternel, qui avait été déporté, qui avait vécu 3 années à Auschwitz et qui en était revenu, qui m'avait beaucoup parlé, en fait, de cette période-là et de sa... ce qu'on peut appeler ça de sa vie, mais oui, de ce moment de sa vie là-bas. Et en fait, cette disparition m'avait fait un drôle d'effet. Il y a ce sentiment d'orphelin qu'on éprouve toutes et tous quand un proche disparaît, qui a une figure de parent un peu comme ça. Mais là, c'était aussi le cas de cet oncle, comme de beaucoup de gens qui ont vécu ça, c'est aussi l'expérience, en fait. La connaissance vécue, l'expérience vécue, qui est une chose très précieuse et à laquelle on avait l'impression qu'on pouvait constamment revenir au cas où, si on avait des questions, si on voulait savoir. Et donc on avait envie de les penser éternelles pour pouvoir toujours, comme une source quoi, à laquelle on revient. Et donc cette disparition était très triste aussi pour ça, au-delà de la personne. Il n'y avait pas que la disparition de la personne qui me rendait triste, il y avait autant presque, et je le dis vraiment sans cruauté, mais presque autant le savoir, l'expérience de cette personne. Et d'un seul coup, la phrase de Celan qui ouvre le livre d'Enel, que Enel a choisi pour, en entrée de son roman, qui témoignera pour le témoin, elle devenait pour moi très, très concrète. Et je me suis dit, est-ce que le théâtre pourrait avoir un rôle à jouer aujourd'hui dans cette question-là de la transmission et du relais du témoin ?
Je suis tout le temps debout. Hein.
Oui, mais avec l'espace.
Enfin, je suis beaucoup debout. Tu vois bien quoi la silhouette. Tu vois ce que je vois, c'est pas.
Mais justement, j'aimerais bien qu'on le voit.
Et pour votre costume, Arthur Noziciel, vous avez un pull à col roulé, un gilet, un pantalon d'hiver, des chaussures qui sont aussi des claquettes. Mais en plus, vous allez danser.
Peut-être, oui.
C'est pas sûr.
Il y a des claquettes. Il y a eu très vite, moi, cette idée de finir la première partie avec des claquettes. Et c'est ça que je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens vont croire que je le fais par rapport à la polémique, c'est de la provocation, etc. Et c'est ce genre de moment dont on a une intuition, mais très très forte. Je sais qu'il fallait que ça se termine comme ça. Et en fait, il y a plein de raisons à ça. Je pense que c'est vrai que ce costume s'inspire d'une photo de moi à 12 ou 13 ans, à la fin des années 70, quand Lanzmann a tourné le témoignage de Karski. Après, tout se répète, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que ce costume, il est bien parce qu'il évoque à la fois cette période et je pourrais aller maintenant dans la rue comme ça, j'aurais l'air complètement d'aujourd'hui. Voilà. Donc il y a un truc, la répétition, elle est un peu partout. Et par ailleurs, les claquettes, c'était aussi quelque chose que je faisais et qui me renvoie beaucoup à cette période. Et je pense que j'en ai fait parce que j'aimais la comédie musicale et que c'était quelque chose d'un fantasme de l'Amérique. Et puis Yann Karski, dans le livre, Yannick Enel, dit ça, Yann Karski dit que juste après la guerre, dans ces moments terribles dans lesquels il vivait, d'angoisse, de rage, d'insomnie, le seul truc qui l'apaisait, c'était d'aller voir les comédies musicales de Fred Astaire et de Gene Kelly. Donc voilà, je me suis dit, si on a besoin de le justifier, ça pourra aussi le justifier. Et puis après, il y a autre chose que j'avais oublié, que j'ai retrouvé récemment. Je relisais les retranscriptions, en fait, des enregistrements qu'on avait faits avec un cousin de mon oncle qui est décédé. Il racontait. Ouais. Et puis, il y a tellement de trucs là-dedans. Forcément, il y en a qu'on oublie en route. Et entre autres, j'avais oublié ce détail qui était qu'en fait, en arrivant au camp, il a essayé de garder le plus longtemps ses chaussures à lui, qui étaient des chaussures un peu solides, parce qu'il ne voulait pas mettre ce qu'ils appelaient à ce moment-là à Auschwitz, les chaussures qu'on leur donnait, qu'ils appelaient des claquettes. Et qui étaient des espèces de petites planches de bois avec un bout de tissu.
En 1942, durant l'été, on confie à Jan Karski une nouvelle mission d'émissaire auprès du gouvernement polonais à Londres. Quelques jours avant son départ, on l'informe qu'il doit se présenter devant le comité exécutif de la représentation politique, c'est-à-dire devant le parlement clandestin. La rencontre a lieu dans un appartement auquel on accède au terme d'un véritable labyrinthe, dont l'entrée se trouve dans une église. J'aperçus assis autour de la table, écrit Jan Karski, les hommes entre les mains desquels reposaient les destinées de la Pologne. Sont présents le délégué du gouvernement, le commandant en chef de l'armée de l'intérieur, l'armée à Krachowa, le directeur du bureau de la délégation du gouvernement, ainsi que les représentants des principaux partis politiques. Sa mission est de remettre au gouvernement en exil à Londres des informations sur la situation en Pologne et l'activité de la résistance. Jan Karski devra également entrer en contact avec les autorités alliées. Les documents que Jan Karski doit emporter en Angleterre représentent l'équivalent de 1000 pages, dissimulées sous forme de microfilms dans le manche d'un rasoir. On y inclut, en langage codé, le sténogramme de la séance, qui constitue la base du rapport de Jan Karski. On est fin août. Une entrevue est arrangée, avant son départ, avec les deux chefs de la résistance juive. L'un représente l'organisation sioniste, l'autre l'Union socialiste juive, qu'on appelle le Bund.
Le deuxième tableau est le tableau de l'autobiographie, et c'est Karski qui narre sa rencontre avec les deux juifs qui le font pénétrer dans le ghetto de Varsovie. Ce deuxième tableau ne voit plus de Karski en scène. Et Nosiciel a choisi de demander à un artiste de faire une intervention plastique. Et il a demandé à une voix de femme, qui est Marthe Keller, de parler. Donc on a le récit de Karski, très halluciné sur ce qu'il voit d'invraisemblable dans le ghetto, de torture, de brutalité, de gens qui meurent de faim devant lui. Et l'œuvre du plasticien est très simplement un plan animé du ghetto, où on voit pratiquement toujours les mêmes rues. Et la caméra suit ces rues comme hallucinée. On voit toujours la même chose, on entend toujours quelque chose de différent parce que le récit continue, il y a toujours une nouvelle atrocité qui est dite. Et même si on connaît le texte, c'est toujours atroce d'entendre toutes ces horreurs. Et en même temps, nos yeux chavirent. Et donc, le deuxième tableau nous rend presque, je dirais, malades de l'horreur de la Shoah. Pratiquement, moi, j'avais envie de vomir à la fin de ce tableau. Alors, je ne sais pas si j'avais envie de vomir à cause de la caméra qui bougeait trop, à cause de la voix de Marthe Keller, à cause de ce que j'imaginais de la vie et de la mort dans le ghetto. on est content quand ça s'arrête. On se dit, c'est pas possible. Je suis ici assise dans mon fauteuil en 2011. J'ai pas envie d'être torturée comme ça. Et donc c'est bien, ça marche.
Ce qui est assez marrant dans la deuxième partie, c'est le côté James Bond de Ian Karski, c'est-à-dire le type qui n'arrête pas d'être arrêté, récupéré, sauvé, torturé, qui s'échappe, qui repart, etc. Enfin, les changements de nom, les missions, les microfilms dans le manche du rasoir, enfin, y a un truc James Bond là-dedans. Donc il fallait un peu raconter aussi ça, tout en restant évidemment très rigoureux et avec justement de reposer la question de la représentation, qu'est-ce qu'on peut montrer ou ne pas montrer. Et donc le film de Miroslav Balka, qui est un des très très grands artistes polonais, un des plus grands artistes internationaux aujourd'hui, est quelque chose que je trouve à la fois pertinent et puissant. C'est-à-dire qu'on est parti du ghetto de Varsovie, on est parti du plan du ghetto. Et c'est comme un microfilm, c'est comme un négatif, en fait, comme une image, un négatif du ghetto de Varsovie, dans lequel on passe et on repasse inlassablement, obsessionnellement. Et donc, comme c'est un peu toujours les mêmes images qui sont bouclées pendant un certain temps, ces images, au début, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et plus on les voit, plus elles commencent à faire sens et plus elles se révèlent. Et plus elles rendent compte aussi, je crois, alors qu'on est en deux dimensions, on est vraiment sur une surface plane. Je pense que dans le rapport au temps, on donne aussi le sentiment de la distance. Parce que ce qui est très frappant quand on découvre le ghetto de Varsovie aujourd'hui, c'est qu'on a beau dire « il n'y a rien », dire « il n'y a rien » et voir à quel point il n'y a rien, c'est une expérience radicalement différente. Et une fois, on essaie de suivre le trajet comme ça, on l'a fait plutôt au pas de course, quasiment sans pause, et il nous a fallu au moins 7 heures pour faire le tour. C'était immense.
I was sick. I understand your role. I am here. I don't go back in my memory. I couldn't take any more. But I reported what I saw. Yes, it was not a world. It was not a part of humanity. I was not part of it. I did not belong there. I never saw such things. I never... Nobody wrote about this kind of reality. I never saw any theater. I never saw any movie. This was not the world. I was told that these are human beings. They didn't look like human beings.
Le 28 novembre 1942, Jan Karski réussit à rejoindre le gouvernement polonais en exil. À partir de là commence une longue période de témoignages. Chaque jour, conférences, entretiens, rapports. La sensation de liberté qu'il éprouve depuis qu'il est en Angleterre disparaît, dès qu'il commence à parler des événements intérieurs de Pologne. Le voici replongé dans ce qu'il nomme l'atmosphère douloureuse de la résistance hantée par le spectre de la Gestapo. Il rencontre tous les officiels britanniques, puis se présente devant la commission des crimes de guerre des Nations Unies. Il y expose les faits dont il a été témoin dans le ghetto de Varsovie et au camp d'Spiszialowiecka. Mon témoignage, écrit-il, fut enregistré, et l'on me dit qu'il figurerait comme chef d'accusation dans le réquisitoire des Nations Unies contre l'Allemagne.
J'étais accompagné par Jan Giranowski, l'ambassadeur de Pologne à Washington. Roosevelt venait juste de terminer son dîner. Il mangeait très tôt, vers 18 heures. Quand je suis entré dans le bureau ovale, on débarrassait les plateaux repas. Roosevelt s'est essuyé la bouche. Il tenait à la main une fiche. Mon nom était écrit dessus au marqueur noir. Il se voyait par transparence. Sans doute y avait-on inscrit ce qu'il fallait savoir sur moi. Roosevelt s'est avancé et m'a demandé mon nom. J'ai trouvé ça absurde puisqu'il venait de le lire sur l'affiche. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris au lieu de dire « Jan Karski ». J'ai dit « Nobody ». Roosevelt n'a pas bien entendu. Il a fait mine d'entendre. Et en me serrant la main très fort, il m'a dit « Welcome, Mr. Karski ». Il y avait beaucoup de gens qui assistaient à la scène. Des militaires assis dans les canapés autour d'une table basse ornée d'une soupière blanche et debout, près de la porte, juste à côté des gardes du corps, une femme vêtue d'un tailleur gris et d'un chemisier blanc avec un chignon et des lunettes qui prenait des notes. Nous avons pris place, l'ambassadeur et moi, dans un canapé. Et tandis que j'expliquais à Roosevelt les conditions dans lesquelles la Pologne parvenait à résister aux nazis et aux staliniens, il s'agitait sur son fauteuil. Il a fini par prendre la même pose que je lui ai vue plus tard sur la célèbre photographie de la conférence de Yalta, où Churchill, Roosevelt et Staline, assis l'un à côté de l'autre, rivalisent de lourdeur, tous les trois repus, satisfait, ou plutôt se donnant du mal pour en avoir l'air. Je parlais. J'essayais de décrire ce que j'avais vu dans le camp d'Izbica-Lubelska. La femme prenait des notes, mais Roosevelt ne disait rien. Je crois qu'il digérait. Je me disais, Franklin Delano Roosevelt est un homme qui digère. Il est déjà en train de digérer l'extermination des Juifs d'Europe. Puis, lorsque j'ai répété devant lui le message des deux hommes du ghetto de Varsovie, lorsque j'ai transmis leur demande concernant les bombardements des villes allemandes, Roosevelt s'est mis à ouvrir lentement la bouche. J'ai pensé, la réaction va être terrible. Mais non, il n'a rien dit. Sa bouche s'est un peu tordue, il écrasait un bâillement.
Je rappelle que Jan Karski se retrouve porteur du message le plus important du monde.
Le 31 octobre 2009, Annette Viviorca et Yannick Enel débattent sur France Culture dans l'émission Réplique d'Alain Finkielkraut.
Il vient d'un pays où il a dû affronter à la fois les nazis et les soviétiques. Il s'extirpe. Avec ce message, il s'extirpe de l'Europe et aux États-Unis, il ne rencontre qu'une forme de surdité. Qu'il se demande à un moment si cette surdité est organisée, effectivement, j'ai posé la question. La violence que je lui prête me semble logique, mais encore une fois, c'était pas un livre d'histoire, vous voyez. C'est un livre d'interrogation sur le cheminement d'une âme de quelqu'un qui a vécu toute la moitié du XXe siècle avec cette interrogation. Que s'est-il passé quand il a porté ce message et qu'on ne l'a pas écouté?
Si je puis me permettre de vous contredire, moi je ne trouve pas que votre livre est provocateur. Oui. C'est-à-dire, je trouve qu'il est représentatif de ce qu'on entend dans les réunions publiques, de l'accusation constante qui fait qu'aujourd'hui, on se demande si Roosevelt n'a pas gazé les Juifs et où on fait totalement disparaître la responsabilité du nazisme. Moi, je ne me suis pas senti provoqué, je me suis senti blessé. Et il y a un moment particulier où je me suis senti blessé, j'ai fermé le livre, il m'a fallu 48 heures pour le reprendre. C'est la description que vous faites de Roosevelt. J'ai trouvé cette description, comment dire, j'ai trouvé qu'elle blessait le lecteur. par une sorte de, d'injustice et de... Bon, d'abord, la scène ne s'est pas passée. Bon, Roosevelt n'était pas tout seul. Il était avec Morgenthau. Enfin, bref. On ne va pas se mettre à faire de l'histoire positiviste. Mais c'est oublier à quel point les choses ont été compliquées. Que si l'Europe n'a pas été abandonnée, c'est aussi parce que des hommes comme Roosevelt ont fait que leur pays est rentré dans la guerre. Et je trouve que ça nous met dans une espèce de posture que j'appellerais de bonne conscience rétroactive. On est Karski, c'est mieux d'être Karski plutôt que de se mettre dans la peau d'un nazi ou d'un collaborateur. Donc on est Karski. On est dans cette position et on ne peut que rallier tous les suffrages. Et on ne peut que se dire, ben moi, si j'étais Roosevelt, j'aurais lancé ma bombe ici, j'aurais fait ça, je ne les aurais pas abandonnés, je n'aurais pas abandonné la Pologne. Voilà mon sentiment.
Mais ce n'est pas de la littérature, Enel.
Claude Lanzmann, interviewé par Sylvain Bourmeau pour Mediapart.
C'est tout sauf de la littérature. La première partie, c'est une paraphrase, parasitage à la fois de moi et de Karski, du livre de Karski, le History of a Secret Set. Et la dernière partie, 72 pages qui permettent au livre d'être appelé roman, c'est d'une invention absolue. Et tous les grands livres de littérature ont affaire à la vérité, toujours.
D'abord, j'avais décidé de faire le spectacle bien avant la polémique.
Arthur Noziciel.
Donc la question s'est posée quand la polémique a enflé, vraiment, à un moment c'est devenu vraiment très 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 violent. C'est vrai que pendant un petit temps, je me suis dit, mais je devrais peut-être pas le faire. Peut-être que cette polémique va faire trop écran au projet et que, bon... Alors après, je me retrouve dans cette situation en disant, je le fais, de toute façon la polémique va se réactiver probablement, je ne le fais pas, ça va donner raison à la polémique, c'est-à-dire, ah bah oui, d'ailleurs il y avait un projet prévu autour de Yann Karski d'Enel, et on annule le projet, donc d'un seul coup, dans les deux cas j'étais obligé de faire avec, j'ai envie de dire, mais du coup je voulais pas renoncer au projet. Je continuais à penser qu'il y avait quelque chose qui m'avait déclenché dans le livre qui le justifiait. Voilà. J'ai pris un peu de distance et je me suis dit, ce qui se passe avec le livre, c'est ce qui se passe avec le livre. Moi, je fais un spectacle de théâtre adapté du livre, c'est un autre objet.
Et moi, j'ai fait partie des historiens qui étaient très modéré dans la critique de Enel. J'ai vu quelques problèmes, mais ils ne me paraissaient pas très importants par rapport à ce qu'il apportait.
Annette Becker.
La polémique est née par Lanzmann. Et à la fois, on peut comprendre Lanzmann, et en même temps, il y a de ma part, et je crois que Yannick Enel la partage avec moi, un peu d'irritation au fait que une seule personne, quel que soit son talent extraordinaire et la part fondamentale qu'elle a apportée à la connaissance de la Shoah par le film Shoah, puisse à tout moment s'interposer et ne laisse personne ajouter d'une autre façon un discours réfléchi, un discours créateur sur la Shoah. Et de ce point de vue-là, par définition, je pense qu'il faut de nouvelles créations, il faut de nouvelles recherches, il faut de nouveaux historiens, mais que les historiens ne peuvent pas tout dire. Je suis persuadée que la littérature, que le cinéma, les arts plastiques ont quelque chose à dire sur la Shoah. Et que Lanzmann, par définition, en tant que créateur, parce qu'il a créé dans le film, il n'a pas fait de l'histoire, il a recréé à partir de l'histoire. C'est ce que font d'autres créateurs et il ne veut pas que ça se passe. Et donc, il intervient toujours pour dire qu'il y a des erreurs historiques, qu'il y a des trahisons. Mais ce n'est pas cela sa ligne de mire. Sa ligne de mire, c'est qu'on ne puisse pas essayer de faire comme lui. Bien sûr, aussi bien que lui, c'est impossible. Et je suis d'accord, personne jusque-là n'a fait ce qu'il a fait. Mais c'est pas une raison pour empêcher les autres de le faire.
Arthur, là, on refait pas la danse, on l'a fait tout à l'heure, c'est ça?
Ouais, on refait pas la danse? Non. 2h30, il est 35. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous faites Laurent?
On fait Laurent, ouais. On va jusqu'à 17h30, 17h45 à peu près.
30? 30?
35.
C'est vrai que ce qui me gêne par rapport à la polémique, d'un point de vue très, d'un point de vue personnel comme ça, c'est d'une part, il y a plusieurs choses. Artistiquement, ce qui me gêne dans la polémique, c'est que il y a une tentative sur ce spectacle qui passe d'abord par la forme, c'est-à-dire de, est-ce qu'on peut donner à représenter, est-ce qu'on peut transmettre une certaine conscience avec les moyens du théâtre, et on en a trouvé pour ce spectacle qui vont peut-être troublé par rapport à ce qu'on attend de comment parler de la Shoah ou du ghetto de Varsovie, etc. Donc je me dis, s'il y a un débat, j'aimerais bien que ce soit par rapport à la forme, c'est-à-dire par rapport à ce que fait le théâtre, ou à comment on représente, comment on traite la chose. J'ai pas envie que ce soit par rapport au fond, au contenu, et qu'on me réactive la polémique sur fiction et histoire. Voilà, c'est ça qui m'ennuie un peu, parce que le spectacle n'est pas là-dessus, que ce débat fiction-histoire, je le comprends plus très bien. Et que le théâtre est déjà un lieu de fiction. Donc, voilà, et qui donne les codes de la fiction. Enfin, je veux dire, on est assis, il y a un plateau, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la représentation devant nous, on le sait tous. Bon. Et clairement, dans la troisième partie, on est clairement dans un rêve, on est clairement dans une réalité distordue, c'est dit tout le temps. Voilà. Donc, ça dit bien qu'on n'est pas dans la réalité historique. C'est une façon de. On est aussi dans la métaphore. C'est-à-dire, moi, je l'ai lu comme l'assoupissement du monde libre, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire que les bâillements de Roosevelt ne sont pas forcément les bâillements du vrai Franklin Delano Roosevelt. C'est les bâillements du monde. C'est des bâillements que je rencontre aujourd'hui. Quand je suis presque encore gêné de dire, bah oui, je vais prendre la parole ou je vais prendre une place avec ce spectacle pour parler de ça. Oui, on va encore vous saouler avec ça. Je sens que ça ennuie. Il y a beaucoup de gens, évidemment, que ça fascine et dans le bon sens, que ça passionne et dans le bon sens, que ça intéresse, que ça, pour qui ça vient réparer quelque chose, effectivement, que ça apaise. Mais il y en a aussi beaucoup que ça ennuie. Encore ? Voilà.
Lorsqu'Arthur Noziciel est intervenu dans le texte de Yannick Enel pour le rétrécir, parce que je crois que si on avait lu l'intégralité du texte, le spectacle aurait duré plus de 8 heures, donc c'était un peu long, effectivement.
Le temps de Shoah.
Voilà.
Dès que j'ai vu la pièce, avant même de retourner au texte de Enel pour la troisième partie, parce que ça, je l'ai fait, j'ai trouvé que vraiment, il avait beaucoup coupé, et donc il a resserré énormément sur la culpabilité de l'Occident, sur la culpabilité des alliés. Il y a des phrases de Enel où il les met face à face, les bourreaux et ceux qui se battaient dans la guerre mondiale contre les bourreaux. Et je comprends qu'on puisse les mettre face à face, et d'ailleurs, les messagers de la Shoah le faisaient aussi, car ce qu'il a fait, et celui qui l'a fait le plus, c'est Lemkin. Lemkin, qui au moment où il a été reçu par Roosevelt, quelque temps avant Karski, Raphaël Lemkin écrit dans son journal, ça s'est passé extrêmement vite, je suis pas sûre qu'il m'ait écouté, et en tout cas, eh bien, il sera complice. Il emploie le mot de complice pour Roosevelt. Raphaël Lemkin. Donc, je ne sais pas si Enel connaissait ce genre de document, mais il est évident que d'autres, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont eu l'impression que, puisqu'on ne les entendait pas, eh bien, on était d'une certaine façon complices. Et même quand on les entendait, on ne faisait strictement rien, pas suffisamment par rapport à ce qu'ils pensaient, avec l'idée qu'au moment où on aurait gagné la guerre, ce qui était la grande idée, ce que dit Roosevelt à Karski. Nous allons gagner cette guerre. Il lui dit, Young man, we are going to win this war. Et eh bien, beaucoup de gens à l'époque ont pensé, oui, on va gagner cette guerre, certainement, mais tous les Juifs seront morts. Et cela, c'est parfaitement juste historiquement. Et donc, Enel a repris ça, et Noziciel l'a encore repris. Mais si cela est coupé du contexte, on arrive finalement à penser qu'il n'y a que cela. Qu'à tout moment, Karski a pensé, Roosevelt, il est comme Hitler. Et ça, c'est une exagération, évidemment. C'est même de la folie. Il était très admiratif de Roosevelt. Mais il avait peur que le temps passé à réfléchir à la façon dont on allait gagner cette guerre, eh bien, tous les Juifs seraient morts. Et donc, malheureusement, dans la pièce, j'ai eu un peu l'impression que le fait que l'on coupe le contexte et que ce soit ce long monologue de la tristesse, de l'abattement de Karski, ça schématisait un petit peu cela. Et c'est ce que j'ai regretté.
Un homme est assis sur une banquette dans un décor confortable et luxueux. Un couloir où les lustres, le marbre et la moquette rivalisent pour lui faire oublier son attente.
On a laissé faire l'extermination des Juifs. Personne n'a essayé de l'arrêter. Personne n'a voulu essayer. Lorsque j'ai transmis le message du ghetto de Varsovie à Londres, puis à Washington, on ne m'a pas cru. Personne ne m'a cru parce que personne ne voulait me croire.
Et puis j'étais moi-même à Varsovie, donc au mois d'octobre, je suis allé commencer à préparer le projet, rencontrer Miroslav Balka, rencontrer des gens, aller aux archives, voilà, faire des choses comme ça. Et un soir, je suis allé à l'opéra. Et alors c'est marrant parce que ce qu'il y avait dans cet opéra, c'était un opéra incroyable qui s'appelle La Passagère. Et là, c'était un spectacle qui est exactement tout ce qu'on pourrait redouter, c'est-à-dire l'illustration sans goût, sans talent, sans distance de ça. C'est-à-dire littéralement Auschwitz sur scène. Alors c'était fou. Et alors comme c'était la première, il y avait des gens très bien habillés, des officiels, des gens en uniforme, etc. Moi j'étais pétrifié, quoi. C'était un truc, c'était vraiment un très mauvais trip. Et il y avait le pire, c'était la fin où d'un seul coup arrivent ces femmes déportées. Donc on voyait bien en plus les faux crânes en plastique et en dessous on sentait les brushings qui attendaient d'exploser. Donc il y avait ces faux crânes un peu gondolés parce que c'était mal fait, les tenues rayées avec un gros mélange, certaines avec l'étoile, d'autres avec un triangle rouge, c'est-à-dire résistantes, juives, communistes, tout le monde dans le même bloc, ce qui est évidemment une aberration. Et le moment où les déportés viennent saluer, on leur amène des fleurs au salut. Déjà, j'ai eu un haut-le-cœur, mais après, quand il a fallu applaudir les nazis, là, j'y arrivais plus. On voyait arriver les nazis, les capots, et tout le monde debout qui applaudit. Je ne veux pas juger les Polonais, mais d'un seul coup, j'étais moi cerné par des Polonais qui applaudissaient ces nazis. Non, c'était pas possible. Et donc, je suis sorti avant la fin des applaudissements, et je me suis retrouvé dans ce couloir. C'était vraiment dans ce couloir. Et puis, je sais pas, je me suis retourné. Et j'ai eu cette vue, en fait, cette perspective. Et je me suis dit, voilà, mais c'est là. C'était tellement évident. Donc, j'ai fait la photo avec mon téléphone. Et je l'ai envoyé tout de suite à Ricardo en disant, je crois que c'est ça, en fait, la troisième partie. J'avais pas envie d'être dans quelque chose de pauvre, forcément. Ce qu'on peut attendre aussi. Ça, c'est les conventions sur la représentation. Voilà, ça devrait être acier, vert. Ça devrait être ne rien montrer. Ça doit être abstrait. Ça doit être gris. Ça doit être pauvre, je sais pas. Et nous, c'est exactement l'inverse. C'est pas pour faire l'inverse, c'est que on est dans une dimension qui est une dimension américaine, qui est une dimension onirique, qui est dans quelque chose de la très grande histoire et d'un homme abandonné, coincé réellement, arrêté, pétrifié, comme il lui dit lui-même, dans l'immensité, dans l'immense sidération qui a été la sienne. Et voilà, c'est comme on raconte ça avec des moyens ensuite, ce sont des moyens plastiques, esthétiques.
Je me verrais mal, par exemple, je ne sais pas...
Laurent Poitrenaud.
Prendre des attitudes de Yann Karski.
Comédien.
Parler avec la voix de Yann Karski. Enfin, ça ne me semblerait pas juste par rapport à ce travail. Que, d'autre part, le texte de Yannick Kennel, justement, en tout cas, la partie qui me concerne, est une rêverie sur Yann Karski, est une fiction sur Yann Karski. Donc le Yann Karski d'Yannick Kennel n'est pas le Yann Karski réel, même si après je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière. Mais donc du coup, j'aborde plutôt ça sur la question de qui traverse toute l'œuvre du livre, qui est, je crois, comment on porte une parole sur scène, comment cette parole peut nous incarner. Voilà, les derniers témoins disparaissent. Ils disparaissent. Ceux qui ont vécu ça sont en train de disparaître. C'est une question de quelques années. Donc, de toute façon, la question de comment cette parole va se prolonger se pose, de fait, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, c'était Sam Brown qui disait lui-même, qui était plutôt d'ailleurs partisan de cet rapport à la fiction, que la fiction devait pouvoir prendre en charge cette histoire-là, cette mémoire-là. Il le résumait très bien. Il disait que quand on demandait aux survivants s'il fallait leur premier souvenir, leur première sensation, qu'est-ce qui leur venait tout de suite, c'était l'odeur. L'odeur des corps qui brûlaient en permanence. Et que ça, aucun historien, ne pouvait rendre cette sensation-là. Et que seule la fiction pouvait peut-être avoir les moyens de rendre cette mémoire-là, en tout cas. Pas la mémoire des faits, pas la mémoire des actes, mais cette mémoire sensorielle, sensitive, qui, je pense, est tout aussi importante. Donc, en ça, je pense que la fiction a son enjeu. Et puis aussi, je crois que si Yannick Enel écrit ce livre, effectivement, comme dit souvent Arthur, c'est quelqu'un qui a 40 ans, et globalement, tous les gens de ce projet tournent autour de cette génération d'âge, à peu près. Et justement, parce qu'on est cette génération qui arrivons avec... Bon, ben voilà, on est ceux qui arrivons derrière, ceux qui ont vécu ça, mais qui ne vont bientôt plus pouvoir en parler. Donc, nous incombe une certaine responsabilité à savoir comment nous on peut poursuivre cette parole. Et bien évidemment, on ne peut pas la poursuivre du même endroit. Nous n'avons pas vécu ça. Je pense que le théâtre n'est pas le plus mauvais endroit pour pouvoir parler de ça. Et que je pense que de toute façon, de fait, la fiction, c'est même pas qu'on le veuille ou non, c'est comme si elle était appelée maintenant à prendre un relais, pas le seul, puisque de toute façon, des historiens continuent à travailler, des choses continuent à être révélées, des questions continuent à être débattues. Même le terme Shoah, d'ailleurs, le rapport au mot, à la parole, je trouvais passionnant, puisque quand Lanzmann, en dénommant son film Shoah, d'un seul coup, nomme également cet événement. C'est-à-dire que je comprends que, et je pense d'une certaine manière, peut-être, enfin, en tout cas, des fois, c'est mon interprétation, c'est que je comprends que ça puisse être très impressionnant d'avoir, par son œuvre, et la dénomination de son œuvre, donc d'avoir dénommé son film Shoah, ce terme est rentré dans le langage courant. Maintenant, on dit la Shoah. Et c'est lié vraiment au film. Donc c'est comme Dieu, quoi. Que la lumière soit et la lumière fut. Donc je comprends que c'est très impressionnant. Et parce que Shoah était en réponse au mot holocauste, qui n'était pas juste pour beaucoup de gens, puisque l'idée c'était d'un sacrifice, alors qu'évidemment aucun juif n'avait décidé de se sacrifier. Donc Shoah, on avait découvert. Et en ce moment, des gens commencent à dire non, le terme Shoah n'est pas juste non plus. Il n'est pas tout à fait juste, parce que c'est genre catastrophe naturelle. Enfin, je ne maîtrise pas bien les données, mais en tout cas, donc on sent bien que même ce terme, qui pour l'instant est complètement générique, même lui continue à poser question. Donc ça veut dire que des gens continuent à réfléchir. Et aussi bien des historiens que des linguistes, que des philosophes. Et que voilà, et que chacun a sa part à maintenir cette mémoire à flot, quoi.
C'est un spectacle où je crois qu'il n'y a quasiment que des non-juifs. Et donc c'est très intéressant qu'il y ait un partage autour de ce spectacle avec des gens qui pour certains étaient éloignés, pour d'autres étaient très passionnés par ça, mais s'en sentaient pas, se sentaient pas habilités à en parler. Il y a ça aussi qui est vécu chez beaucoup de non-juifs que je trouve très, très émouvant et qui moi m'interroge. Je trouve que c'est formidable que ce soit un écrivain non-juif de 40 ans qui fasse ça aussi. Je trouve qu'à un moment... Peut-être que c'est la question que doit se poser notre génération, ou qu'on se pose, c'est, il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu le silence, puis il y a eu l'indicible, puis il y a eu l'ère du témoin. On est passé à travers des périodes comme ça. Aujourd'hui, les témoins disparaissent. Il y a des choses extrêmement solides qui existent, par exemple, Shoah, qui est un film phénoménal. Et comme dit d'ailleurs Yannick Enel dans son livre, c'est un film qui reste à entendre. Et c'est un film à venir. On n'a pas encore tout entendu de ce que ce film avait à dire. Et je pense que c'est vrai. Donc on a ce socle formidable, précieux de Shoah. Le travail de plein d'historiens. À partir de là, justement, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la transgression, mais qui peut être de l'ordre de la tentative où enfin une génération d'artistes pourrait sortir des conventions qui se sont créées ces dernières décennies autour du témoignage et de la représentation de cette réalité, de cet événement. Parce qu'au bout d'un moment, on crée aussi une autre convention qui peut devenir dangereuse. C'est-à-dire que la convention, au bout d'un moment, peut aussi produire quelque chose qui passe dans le passé, et un académisme. Donc, il y a peut-être quelque chose que ma génération peut commencer à travailler, puisqu'il existe aussi ce socle-là, ce leader.
Merci à Arthur Noziciel, Laurent Poitrenaud, Annette Becker et à l'équipe du Centre Dramatique National d'Orléans. Avec des extraits de Shoah de Claude Lanzmann, prise de son, Isabelle Erard, Bruno Mourlan et Georges Thau. Mixage, Pierrick Charles. Comment parlerons-nous de la Shoah ? Yann Karski, Mon nom est une fiction. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Charlotte Roux.
Donc, dans la mise en scène d'Arthur Noziciel, continue sa tournée près de Paris, puisqu'à partir de demain et jusqu'au 19 février, elle est donnée au Théâtre des Gémeaux à Sceaux en région parisienne.